RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Marie-Roger Bilois d'Africa International et Edmond Almeida du Grand Mag Afrique mensuel togolais. Au sommaire, la RDC, avec la récente plainte déposée à l'ONU par Moïse Katumbi contre Joseph Kabila, à 6 mois de la date présumée de la présidentielle congolaise, le bras de fer entre l'ancien gouverneur du Katanga et le chef de l'État se joue désormais sur le plan juridique. Une plainte qui intervient quelques jours après l'annonce des sanctions de l'Union européenne visant 9 personnalités proches de Joseph Kabila. Plus que jamais, le Maroc revendique ses racines africaines. 5 mois après avoir réintégré l'Union africaine, le royaume chérifien devrait dans les prochains mois devenir membre à part entière de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Qualifiée par Rabat d'évolution naturelle, cette adhésion devrait permettre de contribuer à l'émergence d'un espace économique et politique plus fort et plus performant. À 6 mois de la date présumée de la présidentielle congolaise, la rivalité entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi quitte le terrain politique. L'opposant qui vit en exil depuis 1 an à Bruxelles a déposé une plainte pour acharnement contre le pouvoir de Kinshasa. Pour l'heure, Hassan Diop, aucune réaction de Joseph Kabila, mais cette plainte peut-elle le contraindre à enfin se prononcer sur le cas de l'ancien gouverneur du Katanga, dont la conférence épiscopale demande le retour?
Alors, normalement, Moïse Katumbi s'est tourné vers la justice internationale, si je puis dire, cette commission de l'ONU des droits de l'homme, qui n'est pas une juridiction en tant que telle. Cette commission, pardon, pour les détentions arbitraires, faute d'avoir eu, je dirais, parce qu'il était face à une justice nationale qui l'a condamné, qui le poursuit, et effectivement, il y a eu un rapport des évêques disant que tous les dossiers, toutes ces actions judiciaires étaient des actions judiciaires dictées par des raisons politiques, donc instrumentalisées par le pouvoir. Or, le pouvoir n'a pas tenu compte de ce rapport qui a été remis à Joseph Kabila en mars, pas plus que la justice. Donc, Moïse Katumbi se tourne vers la justice internationale parce que la justice de son pays ne répond pas, je dirais, à ses requêtes légitimes et surtout ne lui permet pas aujourd'hui de rentrer libre chez lui. Voilà. Alors, est-ce que ça va peser ou pas? Je pense que oui, parce que Kabila, le régime, la justice, les services de renseignement, enfin, toute la machine judiciaire et sécuritaire de Kabila, aujourd'hui, commence à être visée par une série de sanctions, notamment de l'Union européenne. Et dans les paramètres qui ont été avancés par l'Union européenne, il y a notamment, effectivement, la crise politique qui se conjugue avec l'exil de Katumbi. Il y a également la crise au Kasaï. Voilà. Donc, je pense que ça peut contribuer à infléchir, effectivement, la position du pouvoir.
Marie-Roger Bilois.
Alors, ce qui m'a frappé dans cette conférence de presse, alors, il est venu à Genève pour déposer cette plainte et il s'est adjoint les services d'un des plus grands pénalistes de France. Et une conférence de presse après ça, qui pour moi avait quelque chose de surréaliste, dans un décor assez christique, avec l'effigie du Christ partout.
Il est très croyant. Hein,
et où on parlait de religion. Et ça, c'est assez troublant dans un pays, justement, qui est très troublé et qui n'a plus de base solide. La seule chose, apparemment, qui semblait fédéré et où on pouvait mener des médiations, c'était cette conférence épiscopale, c'était l'Église, la religion, la foi. Ça te montre quand même que les gens sont assez perdus, que les processus politiques sont en panne. On s'en remet à des processus assez irrationnels. Ça fait, c'est un peu.
Enfin, une plainte, c'est quand même rationnel.
Alors, justement, c'était ça. C'était ça qui était drôle.
Je voudrais juste rappeler que la plainte a été déposée un dimanche de Pentecôte. Alors, c'est pour ça aussi.
Mais voilà, c'est ça qui est. Voilà, c'est ce clash entre la rationalité du droit. Et je dis un des plus grands pénalistes de France. Et voilà, c'est croyant.
Mais au-delà de la forme, Marie-Roger, ce qui compte quand même, c'est qu'il y a un homme politique qui est exilé depuis plus d'un an, de manière arbitraire, parce qu'il a été innocenté par les évêques, dans un rapport qui a été remis, donc, il me semble, au président de la République, c'est-à-dire à Joseph Kabila. C'est ça le problème.
Comment on en sort? On en sort par des mises en scène religieuses en s'en remettant à Dieu.
Oui, bon, ça, c'est de la com qui est peut-être mal adaptée.
Il faut reconnaître qu'en RDC actuellement, ceux qui essayent de, qui ont encore un petit peu de levier, où on a cru qu'ils avaient un petit peu de levier, c'était le clergé. C'est l'Église, c'est les évêques, c'est, etc. Donc, je crois que dans cette configuration est très préoccupante, parce que on ne voit pas, et en plus, s'ils échouent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de succès pour le moment. La stratégie de Moïse Katumbi, qui a fait ses preuves, qui a montré qu'il était un vrai dirigeant, qu'il avait de la poigne, qu'il pouvait servir la communauté, on a quand même du mal à comprendre ce qu'il veut faire. Il s'en remet visiblement au réseau des ecclésiastiques, mais je ne sais pas si...
Il s'en remet à la justice internationale.
Une fois que tout ça a échoué, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, c'est ça le souci.
Edmond Almeida, oui, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de Joseph Kabila face à cette plainte?
Je pense que plus Moïse Katumbi va monter un peu l'enchère à l'international, plus le pouvoir de Kinshasa va aussi peut-être se radicaliser. Parce qu'on risque d'arriver à une situation du tout sauf Katumbi. Déjà, les évêques, la médiation des évêques a montré ses limites. On a vu que lors du dialogue...
Celle de l'Union africaine également.
Pareil, donc on a vu que lors du dialogue en décembre, par exemple, le cas Katumbi a bloqué les choses et Katumbi a dû demander que son cas soit mis de côté pour que les choses puissent évoluer. Donc, en temps, il a quand même eu confiance en cette conférence épiscopale pour faire avancer les choses. Malheureusement, je pense aujourd'hui, il a compris que ça ne pouvait pas le faire. Donc, à quelques mois de cette date supposée des élections, Moïse Katumbi sait que si la situation reste comme elle l'est aujourd'hui, il n'ira pas à ces élections. Donc, autant peut-être porter l'affaire devant la juridiction internationale avec donc l'avocat Maître Dupont-Moretti, qui c'est pas sa première incursion en Afrique. On sait qu'il conseillerait le roi du Maroc, notamment, mais ça joint quand même les services de cet avocat, c'est montrer en fait que on est vraiment déterminé à porter cette affaire-là loin.
Hassan Diop, à 6 mois de la date présumée de l'élection, aucun calendrier n'est fixé.
Et puis
Au sein de l'opposition, ce n'est plus l'accord parfait.
Bon, c'est une situation un peu chaotique, la situation finalement, la crise politique en RDC, parce que rien n'est figé, parce que vous avez des leaders de l'opposition qui ensuite vont négocier avec le pouvoir de Kabila, puis qui ensuite vont le rallier, tout en prétendant qu'ils sont toujours dans l'opposition. Bref, rien n'est clair. La parole de l'Église catholique est bafoué, piétiné, puisque l'accord du 31 décembre qui prévoyait les termes de la transition ne sont pas, ces accords ne sont pas respectés par Kabila et par la majorité présidentielle et par une fraction de l'opposition. Quant aux échéances électorales, Kabila himself, en personne, dans les colonnes du Der Spiegel, l'hebdomadaire allemand, a dit qu'il n'avait jamais promis que ces élections se tiendront avant la fin de l'année. Bon, ça veut dire fermons le banc, ça veut dire qu'effectivement, on est parti.
Mais c'était prévisible.
Donc tout le monde dit oui, ces élections vont à la fin de l'année, la communauté internationale, les uns et les autres. Donc finalement, on va vers une montée des enchères, des sanctions de la communauté internationale. Je pense qu'il faut y aller, il faut y aller à fond. Et puis on va vers une montée des enchères, sans doute, du clan Kabila qui veut rester au pouvoir, c'est clair.
Marie-Roger Bilouin.
La démarche a quand même quelque chose d'optimiste, parce que la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève n'a jamais eu un impact extrêmement fort. Mais quand on écoutait Dupont-Moretti, l'avocat, ils vont aller en progressant. Ils ont une marge de manœuvre. Ils vont demander des sanctions, pas seulement contre Kabila, c'est clair, mais son entourage, qu'ils vont peut-être saisir d'autres juridictions. Ils ont fait planer un certain nombre de menaces. Et c'est apparemment une démarche assez dynamique qui va encore aller plus loin. Et elle aura quand même, si elle continue comme ça, s'ils ne sont pas dans l'irrationnel, juste à dire Dieu, Dieu, et qu'ils font du travail politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, s'ils continuent, on pourra d'abord maintenir l'attention sur la RDC. S'il y a des sanctions, elles peuvent avoir un effet coercitif. Moi, on dit enchères, on va faire monter les enchères. Mais je crois que la communauté internationale est quand même plus forte si elle se décide à agir que le régime de Kabila. Et c'est ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est une situation qui ne va pas être débloquée par des croyances mystiques, mais par toute l'action qu'on va mener pour rassembler l'opposition. Ça, c'est un travail, n'est-ce pas,
Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Le pouvoir à respecter, la Constitution.
Il peut respecter si l'opposition est divisée.
Mais voilà, Mandalmeda, il y a quand même des sanctions déjà qui ont été portées. Ce sont celles prises par l'Union européenne, puisque les 9 personnalités proches de Kabila ont interdiction de survoler le territoire européen.
Leurs avoirs
ont été gelés.
Mais le problème de ces sanctions, lorsque vous empêchez des dignitaires du régime de voyager à l'international, ils se barricadent chez eux et ils quittent pas le pouvoir. Donc, en gros, aujourd'hui, la plainte de Katumbi, elle vise notamment à préparer son retour. Katumbi veut rentrer et va rentrer.
C'est légitime.
Voilà. Et aujourd'hui, même si le Conseil des droits de l'homme se prononce pour lui, je pense qu'il ira dans ce pays, mais aura la garantie d'avoir son intégrité physique protégée. Donc c'est surtout pour ça que cette plainte intervient aujourd'hui dans ce timing.
Hassan Diop, un mot sur les sanctions de l'Union européenne.
Je pense que ces sanctions doivent être maintenues, doivent être affirmées, et qu'importe cette souveraineté qui est toujours avant. Je pense que ça peut avoir un impact, ça peut infléchir le pouvoir. Il ne faut pas se dire que Kabila va imiter le même scénario que Nkurunziza au Burundi. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Je veux dire que les intérêts de la communauté internationale ou même des grandes puissances
en RDC sont beaucoup plus importants qu'au Burundi.
Absolument. Et puis, je pense qu'effectivement, le gros problème qui se passe aujourd'hui, c'est que Mobutu est tombé il y a 20 ans, le régime. On a l'impression que, sur certains aspects, rien n'a bougé. Il faut le répéter. C'est-à-dire qu'on parle de justice. Maurice Katumbi est harcelé. La justice est utilisée pour le harceler. Mais il n'y a pas d'état de droit au Congo-Kinshasa. Cela va de l'interdiction de manifester et manifestement au fait qu'il y a un président qui a terminé son deuxième mandat et qui est toujours au pouvoir et qui fixe les règles du jeu.
Marie-Roger, un dernier mot. Pendant ce temps, la dépouille de l'opposant historique est toujours bloquée à Bruxelles.
Mais ça, c'est symbolique de la faiblesse de l'opposition, leur incapacité à trouver un terrain d'entente face à Kabila, qui n'est pas si fort que ça. Sa force ne vient que de la faiblesse de l'opposition, de sa division et de sa vénalité, puisqu'ils sont tous toujours prêts à aller à la soupe. Et ça, il ne faut pas invoquer le ciel, il faut vraiment terre à terre se battre au coude à coude, pied à pied, pour rassembler toutes les forces vives au Congo pour faire face à Kabila. Sinon, on aura toujours des situations. C'est l'un des pays les plus absurdes. Enfin, maintenant, Kabila est hors mandat. Je me souviens qu'en décembre, tout le monde disait « mais c'est fini, les opposants, il est fini, il ne pourra pas, c'est la dernière fois ». Maintenant, comme tu le rappelais, c'est lui qui semble mener le jeu. Mais en fait, il mène le jeu sans rien faire. Il y a un problème quand même. On ne voit pas, à part débaucher des opposants, on ne voit pas quelle est la stratégie de celui qui veut juste rester au pouvoir.
On reviendra dans les prochaines éditions sur cette situation en RDC. En janvier, le roi du Maroc déclarait « Il est beau le jour où l'on rentre à la maison après une trop longue absence. L'Afrique est mon continent et ma maison ». C'est à l'occasion de la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine, au terme de 33 ans d'absence. Début juin, au sommet de la CEDEAO à Monrovia, le Maroc obtenait un accord de principe pour adhérer à l'organisation sous-régionale. Évolution naturelle, comme on affirme au Maroc, ou stratégie économique à Hassan Diop?
Évolution naturelle et stratégie économique, les deux. C'est-à-dire que géographiquement, c'est vrai que le Maroc n'a pas de frontière commune avec aucun pays membre de la CEDEAO, parce qu'il y a le tampon de la Mauritanie, mais qu'importe, le Maroc...
Mauritanie qui, elle, a quitté la CEDEAO.
Oui, mais qui retape à la porte de la CEDEAO, curieusement. En plus, le Maroc entretient des relations de proximité et économiques avec un certain nombre de pays de la région, pour ne citer que le Sénégal, d'autres pays, pour mettre en place la Côte d'Ivoire, compagnie aérienne, des investissements dans le secteur bancaire, financier, etc.
Dans la téléphonie.
Donc, je pense qu'il y a une cohérence, même s'il y a effectivement, s'il n'y a pas cette proximité directe géographique. Et puis, le roi l'a démontré. On le répète à chaque fois, au cours de ces dernières années, il a voyagé, il a labouré le terrain, il n'a pas fait que des visites pour des visites, et souvent, il est resté plusieurs semaines dans chaque pays.
Edmond Almeida, c'est quand même Alassane Ouattara qui a proposé cette adhésion du Maroc.
Oui.
Ce n'est pas le Maroc qui l'a poussé tout seul.
Au fond, passer quand même l'émotion de l'opinion, c'est quand même une bonne nouvelle pour la CEDEAO. Très bonne nouvelle, cette adhésion, parce que le Maroc était déjà présent dans cette partie du continent. Et surtout, aujourd'hui, avec tout ce qui va découler de cette adhésion, notamment sur le plan juridique, on parle donc de la libre circulation des personnes et des biens, je pense que c'est plus au bénéfice des autres pays de la CEDEAO. D'ailleurs, le président Faure Gnassingbé qui a hérité donc justement de ce dossier, aujourd'hui, une fois que cette adhésion sera réglée sur un plan juridique, moi je prends l'avion pour aller au Maroc, je n'ai pas besoin de visa. Et ouais. Ça, pour les affaires, honnêtement, c'est une bonne chose.
D'accord. Alors, Marie-Roger dit, on a l'impression que, bon, ce que Marie-Roger veut dire, que finalement, on a accordé des faveurs au royaume du Maroc qu'on n'aurait pas accordé à un pays lambda. Ok, admettons. Mais qu'importe, aujourd'hui, le temps est à la vitesse. Donc, si la procédure est moins longue pour l'adhésion du Maroc, pourquoi pas si ça doit aboutir au même résultat. Et encore une fois, je pense que l'arrivée du Maroc dans la CEDEAO ne peut être que bénéfique. La CEDEAO, c'est 700 milliards de PIB, le Maroc un peu plus de 100. Quand on conjugue, ça fait 800. Mais qu'est-ce que ça apporte?
Vous faites des additions de chiffres.
Mais ça apporte des possibilités d'investissement, des échanges.
Et même sur le plan sécuritaire, il y aurait quelques avantages.
Le Maroc est très bien placé sur le plan du transport aérien. La Royal Air Maroc est une compagnie qui dessert très importante, de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Enfin bref, je pense qu'il n'y a que des avantages, alors qu'il me semble que l'opinion ne peut être que favorable, oui, dans la mesure où il y aura une libre circulation des personnes et des biens.
Voilà. Marie-Roger, par ailleurs, le Maroc entretient avec cette partie de l'Afrique de l'Ouest des relations cultuelles.
Alors, il faut se demander pourquoi le Maroc veut entrer dans la CEDEAO. Le Maroc veut être la porte d'entrée de l'Union européenne, de l'Asie, etc. Ça, elle sait que c'est intéressant. Le Maroc veut justement avoir un poids politique au sein de la CEDEAO avant d'accepter une telle adhésion, à la limite qu'elle soit rapide ou pas. Allons sur le fond. Quel est l'intérêt pour les pays, les États membres? Ça n'apparaît pas. On me dit, oui, mais on va conjuguer des PIB. Mais enfin, là, actuellement...
Non, mais c'est des échanges.
Excusez-moi. Actuellement,
c'est
on a...
C'est des investissements.
Actuellement, on a le PIB du Nigeria, le poids le plus important. Il faut me dire en quoi ça a un effet mécanique sur les économies des pays environnement.
Voilà. Écoutez, moi, la libre circulation des biens, la libre circulation des capitaux, il va y avoir des investissements de la part du Maroc.
Il y a même des échanges sur le plan universitaire.
Voilà, il va y avoir des
échanges technologiques. Plusieurs étudiants d'Afrique subsaharienne sont formés au Maroc.
Le Maroc, il ne faut pas s'en cacher, est un hub aussi de la technologie occidentale. Il y a des montages, il y a des usines aéronautiques qui font du montage au Maroc, des usines automobiles, etc. etc. Donc, il ne faut pas uniquement penser en termes d'intérêt uniquement pour le Maroc. Je pense encore une fois que les autres pays de la CEDEAO ne peuvent qu'y trouver leur compte, et c'est en étant nombreux, en tout cas aujourd'hui sur le plan économique, que l'on pèse.
C'est juste Edmond Almeida pour le Togo qui préside aujourd'hui aux destinées de la CEDEAO, puisque c'est le président Faure qui est le nouveau président de la CEDEAO pour les 12 prochains mois. Comment a été reçue cette information de l'adhésion prochaine du Maroc?
Je pense que c'est une bonne nouvelle. Pour la simple raison que le Maroc, qui est donc le premier investisseur africain au niveau de la CEDEAO, a beaucoup d'actifs au Togo. Et donc l'argent des Marocains sert à employer beaucoup de Togolais. Donc aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle parce que il y aura forcément de nouvelles opportunités justement pour notamment l'emploi dans cette sous-région. Donc lorsque Marie-Roger dit oui, on additionne les chiffres, le PIB et tout le reste, d'accord, ce sont des chiffres, mais concrètement, quand on prend une banque comme la BOA, par exemple, une banque donc la BOA, ou à d'autres banques marocaines qui sont au Togo, qui emploient quand même des centaines, des milliers de Togolais. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Maroc
des
dans la CEDEAO... Bah oui, quand même.
Des milliers.
Elle est présente dans de nombreux pays.
Il n'y a pas que les banques.
Que c'était seulement au Togo.
Il n'y a pas que les banques. Il y a aussi le Maroc est présent dans le tourisme, dans le
sécuritaire.
Donc je pense que c'est des choses qui s'étudient. C'est juste dommage que tout ça se passe en quitte, en catimini, sans intégrer l'opinion, sans explication derrière.
C'est vrai quand même que dès que le Maroc a annoncé son intention d'intégrer la CEDEAO, il y a eu une forme de levée de bouclier de la part des médias qui ont dit attention, mais au fond, quand on analyse bien les choses, non, ce n'est pas aussi défavorable pour les
ça populations. Ça sera le mot de la fin. Merci à Sane Diop de Radio France Internationale, à Marie-Roger Bélois d'Africa Internationale et puis à Edmond Almeida du Grand Mag Afrique mensuel togolais. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.